Mesdames et messieurs de la nation sainte, du royaume du Père éternel, Sion son peuple, aujourd'hui la révélation Esprit Saint va continuer à réhabiliter le Père éternel que les conciles ont complètement occulté au profit de Jésus corps physique. Vous devez retenir que les conciles avaient bidouillé les Écritures avant qu'elles ne fussent rassemblées dans la Bible au XVe siècle par Gutenberg, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, ils continuent à tripatouiller les Écritures dans le but de les rendre conformes à leurs décisions, à leur credo, à leur doctrine. Tenez, par exemple, au Concile de Constantinople en l'an 381, ils avaient nommé Jésus Seigneur, le seul Seigneur, en lieu et place du Père éternel, que le Créateur avait existencié et établi comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et comme ils avaient décidé de remplacer Jésus, de remplacer le Père éternel par Jésus, il fallait donc trouver un moyen pour introduire tous ces credos dans les Écritures. Et vous savez qu'ils avaient aussi décidé de nous imposer que Jésus ressuscita le troisième jour. Ils vont donc les insérer, par exemple, dans Romains 19, dans l'épître de Paul, en ces termes. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Réalisez que ce sont les conciles qui ont ajouté tous ces passages comme celui-ci dans les Écritures, lequel n'existait pas avant la fixation de leur credo en Jésus. Vous savez déjà, et cela vous a été démontré à l'audio passé, que Jésus n'est pas Seigneur, mais c'est plutôt le Père éternel qui est la parole de Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. D'ailleurs, Jésus l'avait lui-même déclaré dans Matthieu 23, 10. N'appelez personne sur la terre votre Seigneur, un seul est votre Seigneur, le Père qui est aux cieux. Avant de poursuivre, je dois vous dire que ces conciles ont été d'une méchanceté incroyable. Par exemple, dans Ésaïe 8, 12, avant, il était écrit « N'appelez pas péché ce que ce peuple appelle péché ». Comme ils ne pouvaient pas le comprendre et l'expliquer, ils ont ôté le mot « péché » de ce passage d'Ésaïe 8, 12. Et ils l'ont remplacé par « conjuration ». Au lieu de « n'appelez pas péché » ce que ce peuple appelle péché, ils ont mis à la place « n'appelez pas conjuration » ce que ce peuple appelle « conjuration ». Ça, c'est compliquer la vie des gens. Soit, nous revenons à notre propos. Donc, ils ont modifié ce passage qui dit « N'appelez personne sur la terre votre Seigneur, un seul est votre Seigneur, le Père qui est aux cieux. » Ils l'ont modifié et ils ont inséré ceci. « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Ils n'ont même pas honte, ces conciles. Vous observez que ils suppriment le mot « Seigneur » qui remplace par le mot « directeur » et le Père des cieux par « Christ ». Ils effacent « Seigneur » non seulement puisqu'ils veulent faire de Jésus « Seigneur » en lieu et place du Père éternel, mais aussi parce qu'ils se font appeler « Mon Seigneur ». Et le Père des cieux est remplacé par Christ, car pour eux, désormais, Christ prend la place du Père éternel. Ce qui est faux, car la parole révélée Christ est le Fils de la parole divinité Père éternel. Le Christ n'est pas le Fils du Créateur. Le Fils que le Créateur nous donne, c'est le Père éternel, le Père des cieux. D'où est sorti le Christ, la parole divinité que le Créateur avait confiée à Jésus pour son enseignement à Israël. Et ce Christ était une parole scellée en dedans et en dehors, sept fois. Donc une parole qui ne pouvait livrer sa connaissance et ne pouvait éclairer personne. Comment alors pouvait-il devenir ou être établi comme directeur? Lorsque l'on trompe, la tromperie vous rattrape. Lorsque l'on ment, les mensonges vous rattrapent. Et vous savez qu'un seul a été établi par le Créateur comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples, à savoir David, le Père éternel. Pourquoi donc l'effacer au profit de Jésus? Qui le leur a ordonné? La réponse est claire. C'est la bête et non le Créateur. Ne confessez donc plus Jésus comme Seigneur, car il ne l'est pas. Sachez que Jésus n'est jamais ressuscité des morts, car le verset sur lequel il se base et qui stipule « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai » ne concernait pas le corps de Jésus, mais plutôt le parvis du temple qui est essentiel. Entendez les deux premiers livres de Révélation, le Mosaïque et le Christique, que le Père éternel est en train, au troisième millénaire, de rebâtir, de ressusciter et de faire passer de connaissance terrestre à connaissance céleste. D'ailleurs, il va ressusciter des morts pour aller où? Vous devez savoir que les cieux, le ciel, la terre et la mer dont avait parlé le Créateur dans Genèse n'avaient jamais concerné le monde physique. Toute la Genèse porte sur la création du monde physique. Pardon, la création du monde de la connaissance divine, dont voici schématiquement la teneur. Mais au préalable, il faut savoir que toute la parole divine se divise en deux parties. La partie céleste et la partie terrestre. Pour la partie céleste, il y a les cieux du matin. C'est le Père céleste, le Père des cieux, le Père éternel, le Père de la vérité, le Prince de la lumière, le Prince de la paix, le Fils unique du Créateur. Les cieux du soir, c'est Satan, la bête, le dragon, le serpent ancien et le diable. C'est le faux Père des cieux, le faux Père éternel, le Père des mensonges, le Prince des ténèbres, de l'adversité, le Fils multiple et multiforme du Créateur. Le Père éternel est la parole supracéleste du matin, la connaissance divinité du matin, le plus grand luminaire du matin. Satan, la bête, est la parole supracéleste du soir, la connaissance divinité du soir, le plus grand luminaire du soir. Le ciel du matin, c'est le trône du Père éternel, le Saint-Esprit, une partie du plus grand luminaire, la parole céleste du matin. Le ciel du soir, c'est le trône de Satan, la bête, le dragon du ciel, une partie du plus grand luminaire du soir, la parole céleste du soir. Dans la partie terrestre, il y a la terre du matin, c'est le Fils, le Christ, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel de la parole, le plus petit luminaire, le marchepied du matin. La terre du soir, c'est la bête qui monte de la terre, le marchepied du soir, le serpent terrestre. La mer du matin, c'est la parole mosaïque, qui est l'ossature de la parole divine, la représentation physique de la parole divine. Enfin, la mer du soir, c'est la bête qui monte de la mer, le Léviathan, le serpent de mer, la fausse ossature et la fausse représentation physique de la parole divine. Voilà, dans son entièreté, de manière schématique, le monde de la connaissance divine que le Créateur avait existencié dans Genèse. Et vous voyez maintenant bien pourquoi Jésus ne pouvait être ressuscité ou monté au ciel. En effet, au ciel de la connaissance divine existent uniquement deux paroles divinité, deux connaissances divinité, à savoir le Père éternel et le Saint-Esprit du côté de la vraie connaissance divine. Maintenant, si Jésus avait été ressuscité, où serait-il parti? Et dans quel ciel serait-il monté? Si c'est au ciel physique, il y serait monté. Pourquoi y faire? Et dans cet espace qui sépare les astres, vous devez savoir que toutes ces paroles divines, en dehors des cerveaux humains, ne peuvent se retrouver que dans la mémoire du Créateur. Alors, si c'est au ciel de la connaissance que Jésus devait se rendre, il devait donc entrer dans le cerveau du Créateur et pour y faire quoi? Ce qui est donc inutile et impossible. Ne pensez même pas à la fausse Sainte Trinité, car la vraie Trinité est composée des cieux du matin, du ciel du matin et de la terre du matin. Ces trois paroles, deux paroles célestes et une parole terrestre. Il n'y a donc pas de place pour Jésus corps physique. Ainsi donc, tous les passages que vous rencontrez dans la Bible à propos de la résurrection et de l'ascension de Jésus ont été introduits dans les Écritures par les conciles à partir des songes et des visions ou des fabrications qui n'ont donc aucune réalité concrète. Jésus n'est donc jamais ressuscité et n'est jamais monté au ciel de la connaissance qui ne peut atteindre. Vous saisissez également que, par ricochet, l'Assomption de Marie ou sa montée au ciel est une fausseté. De même, celle de pseudo-saints, car ils n'ont rien à faire tant au ciel physique qu'au ciel de la connaissance divine. Ils avaient avancé que si tu confessais de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu croyais que Dieu l'avait ressuscité des morts, tu serais sauvé. Mais sauvé de quoi? De quel salut s'agit-il? Essayez de poser la question de savoir en quoi consiste ce fameux salut par Jésus. Vous n'obtiendrez que des réponses floues, comme l'est leur affirmation. Le salut que nous attendions est l'avènement du Père éternel, qui n'était pas encore révélé à leur époque, pour effacer la marque de la bête dans nos cerveaux et y transcrire l'Esprit Saint, le sceau de Dieu. C'est cela la résurrection des âmes promise, la circoncision des cerveaux. Lorsque donc vous confessez que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité de mort, vous vous imaginez que comme par une baguette magique, la marque de la bête s'efface d'elle-même en vous et la parole révélée Saint-Esprit se transcrit automatiquement en vous. Car c'est cela le salut. Est-ce vrai cela? Et puis, il n'a jamais été dit dans les Écritures que c'est Jésus qui nous apporterait ce salut. Lisez bien Ésaïe 55, 3, 5 et vous constaterez que c'est David, le Père éternel, qui nous apporte le vrai salut. C'est par lui que le Créateur signe avec nous une alliance éternelle. C'est David, le Père éternel, qui vient accomplir la résurrection de nos âmes et non Jésus, comme le décida le Concile de Constantinople en l'an 381. Finalement, ce concile n'avait été que des assemblées de mythomanes qui n'auront produit que des mythes, des mythologies et des faussetés. Ils annoncent par exemple que Jésus était né du Père avant tous les siècles. Mais quel est cet être humain qui peut savoir ce qui se passait ou ce qui s'était passé avant tous les siècles, avant la création? Était-il présent? La réponse est personne. Seul le Créateur peut le révéler et il ne l'a jamais fait à propos de Jésus. C'est donc une fabrication absurde des conciles. Et pourtant, le Créateur avait déjà donné existence avant la création du monde à ces deux princes, le Père éternel et Satan, qu'il avait déjà établi comme lien, le vrai et le faux, entre les hommes et lui. Mais ce qui est surprenant, ce qui est vraiment surprenant, est que les conciles avaient oublié de nommer Jésus prince, hein, pour qu'il devint le troisième prince à côté de ceux du Créateur. C'est vraiment dommage. Ils avaient oublié de l'appeler prince Jésus. Le Créateur établit deux princes. Et les conciles en nomment un troisième. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Continuons à parler du fameux salut. Dans le premier livre de la Révélation divine, le Créateur n'avait parlé que de la résurrection des âmes. Et dans le second, Jésus ne parlait que de la résurrection et de la vie éternelle que le Père donnerait. Mais que se passa-t-il pour qu'on nous impose une autre forme de salut basée sur la rémission des péchés sociaux, sur le versement du sang physique de Jésus, sur la résurrection et la vie éternelle des corps physiques? Voici ce que Jésus déclare dans Jean 6, 50 à 54. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parlons d'abord de pain. Le pain, c'est la parole révélée. Dans le temple connaissantiel, nous avons deux paroles célestes et deux paroles terrestres, c'est-à-dire deux pains célestes et deux pains terrestres. La parole divinité Père éternel est le premier pain céleste. Entendez, la parole supra-céleste, remplie de vraies connaissances divines et en termes cachetés, le premier pain de vie ou le premier arbre de vie ou encore le premier livre de vie. La parole divinité Saint-Esprit est le second pain céleste, c'est-à-dire la seconde parole remplie de vraies connaissances divines. Et en termes cachetés, c'est le second pain de vie ou le second arbre de vie ou encore le second livre de vie. Et vie veut dire connaissance éternelle. La parole divinité Fils ou Christ est le pain terrestre, le premier, mais qui était cacheté. C'est donc un pain sec, sans vie, et la parole divinité mosaïque est le second pain terrestre, le second pain sec, sans vie, car elle aussi était cachetée. Lorsque la parole Fils de l'homme ou Christ quitte le ciel connaissantiel pour venir dans le monde, elle laisse sa connaissance ou sa vie au trône connaissantiel du Père éternel. Elle laisse sa connaissance. Elle vient donc dans le monde cachetée et elle ne peut donc donner la vie à qui que ce soit. C'est donc une vraie lorsqu'on déclare que celui qui mange de ce pain sec, de ce pain terrestre, ne meurt point. Car seul celui qui mange le pain de vie ou la parole céleste ne meurt point. Mourir veut dire vivre dans l'ignorance, car on meurt faute de connaissance. Jésus n'est pas le pain vivant venu du ciel, car il n'est jamais venu du ciel connaissantiel. Vous savez déjà que Jésus avait annoncé que la parole que les Juifs entendaient n'était pas de lui, mais du Père qu'il avait envoyé. Si donc Jésus déclare « Je suis le pain de vie », ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais du Père éternel, la parole supra-céleste, qui est le pain de vie. C'est lui le pain vivant, mais qui n'était pas encore venu dans le monde, car il n'avait pas encore été révélé. Comme le Père éternel vient d'être révélé aujourd'hui, celui qui le mange reçoit la vie éternelle, ou mieux, la connaissance éternelle. Il n'est pas question ici non plus de son corps physique, car le corps physique ne peut vivre éternellement. C'est une loi divine. Les conciles avaient pensé que cette chair était la chair physique de Jésus, tout comme son sang physique. Il ne s'agit pas de cela, il ne s'est jamais agi de cela. La parole est composée de deux éléments, à savoir les langues plus la connaissance, ou en d'autres mots, on peut dire l'eau plus l'esprit, la chair plus l'esprit, la chair plus le sang, le pouvoir plus la puissance, les outres plus le vin, les mets plus le vin, la lettre plus l'esprit. Comme la vraie connaissance divine est le vrai esprit de Dieu, donc l'esprit est égal au vin, est égal à la puissance, est égal au sang. Et la chair est égale à la lettre, est égale aux outres, est égale au pouvoir, est égale à l'eau. Donc, manger sa chair, c'est apprendre la lettre, les outres, le pouvoir et l'eau, c'est-à-dire sa parole terrestre, son pain sec et terrestre, le Fils de l'homme sans sa connaissance. Et boire son sang, c'est apprendre le Père éternel, qui est le vrai Esprit de Dieu, le vin nouveau, la puissance qui lui appartient, la connaissance éternelle, le sang connaissantiel, le pain de vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut donc manger le pain sec plus le pain de vie. Il faut apprendre la parole terrestre plus la parole céleste, qui est la vie éternelle, qui est la connaissance éternelle, qui est le Père éternel. C'est donc une vraie lorsqu'on parle de la vie éternelle des corps physiques. Car la vie éternelle ou le Père éternel se transcrit dans les cerveaux pour y remplacer la marque de la bête ou Satan et ses fausses connaissances divines. Le Père éternel est notre résurrection, car il nous fait passer de la mort à la vie, c'est-à-dire des fausses connaissances divines, entendez la mort, à la vraie connaissance divine, comprenez la vie éternelle, la connaissance éternelle. Il est donc question ici de la chair connaissantielle et du sang connaissantiel, et non de la chair physique et du sang physique. Voici ce qui est écrit dans Matthieu 26 à 29. Dans Matthieu 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà l'une des plus grandes ivraies que les conciles ont introduites dans les Écritures afin de crédibiliser la fausse nouvelle alliance par le sang de Jésus qu'ils avaient fabriqué sans une quelconque révélation divine. Lorsque les Juifs se sentirent offensés, offusqués, car Jésus leur demanda de manger sa chair et de boire son sang, j'insiste sur cette expression, boire son sang, boire son sang. Et non verser son sang, mais boire son sang. Lorsque les Juifs se sentirent offensés ou offusqués, car Jésus leur demanda de manger sa chair et de boire son sang, Jésus avait rétorqué en disant, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Vivifier veut dire connaissancialiser. Donnez la connaissance, car l'Esprit est la connaissance éternelle. L'Esprit est la connaissance divinité. La parole est donc composée de la chair et de l'Esprit. La chair, ce sont les langues, et le sang ou l'Esprit, c'est la connaissance qu'elle contient. Donc, toutes ces paroles étaient cachetées, c'est-à-dire simple chair sans le sang, simple chair sans l'esprit. Jésus leur avait déclaré donc que tous les mots qu'il avait utilisés là ne servaient de rien, car ils n'étaient réellement pas physiques, et que ce qui était important, c'est la connaissance qui était cachée en eux, en ces mots, la connaissance qui était cachée dans le mot chair et dans le mot sang. Devant les apôtres, Jésus ne pouvait pas se contredire. Il avait répété à ce qu'on appelle la Sainte Cène, il avait répété aux apôtres de manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie éternelle telle que vous l'avez déjà compris. Mais le concile modifie ce passage délibérément. Au lieu de la chair, ils mettent le corps physique de Jésus, ce qui est une ivraie. Jésus demandait de boire le sang du Fils de l'homme en langage cacheté. Les conciles suppriment cela et mettent que le sang de Jésus devait être versé pour la rémission des péchés. Jésus demandait de manger la chair et de boire le sang du Fils de l'homme pour avoir la vie éternelle ou la connaissance éternelle. Le concile impose le versement du sang physique de Jésus pour avoir la rémission des péchés. Qu'est-ce que la rémission des péchés vient faire dans la connaissance éternelle? Qu'est-ce que la rémission des péchés vient faire dans la connaissance éternelle? Le Créateur n'avait jamais déclaré que nous obtiendrions la connaissance éternelle par le versement du sang physique de Jésus. Jamais! Et le sang de Jésus ne peut nous donner la vie éternelle. Car la connaissance éternelle vient remplacer dans nos cerveaux les fausses connaissances divines. Et le sang physique de Jésus ne peut pas effacer les fausses connaissances divines dans nos cerveaux humains. Car seule la connaissance peut chasser une autre connaissance. La marque de la bête est une fausse connaissance divine. Et elle ne peut être chassée que par la vraie connaissance divine. Et c'est cela le salut que le Créateur nous avait promis. Et le sang physique versé de Jésus peut-il nous apporter ce salut promis par le Créateur? Vous comprenez maintenant que le salut insignifiant par le sang de Jésus n'est donc qu'une fausseté inventée par les conciles sous la houlette de Satan, la bête. Et le salut du Créateur ne concerne pas les péchés sociaux, mais des atteintes à l'intégrité de ses révélations, l'atteinte à l'innocence de ses révélations, à travers les fausses explications, les fausses interprétations comme celle-ci, de la chair et du sang, les fausses doctrines, les affabulations, comme la montée de Jésus au ciel, la montée de Marie au ciel et la montée des morts au ciel. La fausse alliance par le sang physique de Jésus, inventée par les conciles, est donc nulle, et alors nulle. Ils ajoutent que Jésus avait déclaré ce jour-là qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne avec les apôtres jusqu'au jour où il en boirait avec eux dans le royaume de son Père. Mais aujourd'hui que le royaume du Père éternel est là, où est la place du fruit de la vigne ou du vin physique dans le royaume de la connaissance éternelle? Fausseté sur fausseté. Partout donc dans la Bible où il est question du sang de Jésus versé pour notre salut, Sachez désormais que tous ces mensonges ont été ajoutés par les conciles. Dans les écritures originelles et authentiques, ils n'avaient jamais existé. Et dans ce passage, le Fils de l'homme parle du royaume du Père éternel, son Père, qui devait venir. Dans ce passage, Jésus parle du royaume du Père éternel qui devait venir. Et une question me revient en ce moment. Qui devrions-nous attendre après Jésus? Dès ses premières prises de parole, Jésus avait annoncé à Israël la venue prochaine du royaume du Père des cieux, le royaume du Père éternel. Et d'ailleurs, dans le Notre Père que vous récitez chaque jour, vous demandez que le royaume du Père vienne jusqu'à ce jour. Le Père éternel vient établir son royaume sur cette terre des hommes. Il ne s'agit pas du royaume du Créateur qui lui gère toute sa création, mais du royaume de son Fils, le Père éternel ou David en langage casté. Et ce royaume est éternel. Il n'est pas question ici d'un royaume semblable à celui des rois humains, mais du royaume de sa parole divinité, dite Père éternel. D'où vient alors que le Concile de Constantinople, en l'an 381, nous annonce que nous devrions attendre le royaume de Jésus qui doit revenir juger les vivants et les morts, et son royaume n'a pas de fin? Qui devions-nous attendre finalement? Le Père éternel ou Jésus? Jésus nous demande d'attendre le règne du Père. Et les conciles nous demandent d'attendre le règne de Jésus. En qui devez-vous croire? En Jésus qui fait l'envoyé du Père, ou en les conciles non envoyés par le Créateur, le concile des autoproclamés évêques et serviteurs de Dieu? Jésus qui a déjà rejoint l'inexistence, comment va-t-il faire de lui-même pour revenir à existence et fonder son royaume? En effet, le retour à l'inexistence est une loi éternelle établie par le Créateur pour toute créature. Comme il vous avait déjà déclaré, qu'en dehors de votre vie actuelle, il n'existe ni vie antérieure, ni vie postérieure pour vous. Dès que votre cerveau s'éteint, a lieu votre retour à l'inexistence. Le Créateur ne rappelle personne à lui, car il n'est avec personne et il n'a besoin de personne, d'aucune créature à ses côtés, car il se suffit à lui-même. Ne dites donc plus au décès de quelqu'un que le Créateur l'a rappelé auprès de lui. Pourquoi y faire? À la mort, l'être humain disparaît à toujours de la création. Enfin, retenez que le jugement dernier des humains, des hommes, vivants et morts, par Jésus, n'aura jamais lieu. Puisque n'ayant jamais été prévu ou programmé par le Créateur. Jusque-là, le Créateur n'avait prévu et programmé que deux jugements. Le premier, celui de Babylone la Grande, la Jérusalem terrestre impurifiée, c'est-à-dire ces deux premiers livres de révélation impurifiés, Ce premier jugement a lieu en ce moment même. Et vous êtes en train de l'écouter. Il aboutit à la première résurrection connaissancielle des âmes. Le second jugement concernera Gog et Magog, et il aura lieu en son temps pour amener la seconde résurrection connaissancielle des âmes. Ce sont les jugements du prince de ce monde, Satan la bête, chaque fois qu'il aura impurifié la révélation divine. Notez donc que partout dans la Bible, où vous voyez qu'il est question du retour de Jésus et du jugement des humains, notez que tous ces passages avaient été introduits abusivement par les conciles dans les Écritures. Lorsque vous voyez Jésus revient bientôt, sachez que ce sont les conciles qui l'ont enserré. Et cela ne procède d'aucune vraie révélation divine. Celui qui devait venir bientôt, c'est uniquement le Père éternel, et qui maintenant est déjà là, puisqu'il est révélé au monde d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie. Parmi les gens qui étaient au concile, il n'y avait aucun envoyé du Créateur, aucun prophète du Créateur. Il n'y avait donc aucune révélation divine. Ce n'était donc que des élucubrations humaines sur élucubrations humaines. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.